grand jury de la presse immobilière. Une émission en partenariat avec Bien Ici, présentée par Sylvain Lévy-Valency sur Radio Immo.
Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Il est 18h33, voilà, on a 3 minutes de retard, veuillez nous en excuser. Vous êtes sur IMO, on est ravis d'être avec vous. On est en direct, bien évidemment, pour notre numéro de novembre 2024, le grand jury de la presse immobilière, où le concept est le suivant. Vous le savez, les amis, depuis maintenant 4 saisons, on réunit toute la presse immobilière, même la presse généraliste qui ont des pôles immobiliers, pour leur demander leur avis sur le marché du logement, mais aussi sur la fabrique de la ville. Et donc, chaque mois, nos amis et nos collègues journalistes viennent sur le plateau. Elle était avec nous, d'ailleurs, dès la première heure. Elle était d'ailleurs au Monde à l'époque. Maintenant, elle est essayiste, elle écrit des livres, elle fait des conférences, elle est dans les conférences de presse. C'est toujours un plaisir de l'avoir sur le plateau. Une grande dame du journalisme, Isabelle Ray-Lefèvre. Comment ça va, Isabelle ?
Très bien, bonsoir à tous.
Je suis super content que vous soyez là. Merci
d'être avec nous. Moi aussi, je suis content d'être là.
On est très heureux puisque nous avons un nouveau venu dans le club du grand jury de la presse immobilière. Il représente un journal aussi très important dans la fabrique de la ville et l'immobilier. En l'occurrence, ImoWeek. Vous retrouverez d'ailleurs l'URL sur le podcast, bien évidemment. C'est Anthony Denet. Bonjour.
Bonjour à vous.
Plutôt bonsoir. Merci d'être avec nous.
Merci pour l'invitation.
Merci d'avoir accepté également. Voilà, quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis quelques temps, il nous a beaucoup, beaucoup manqué. Voilà, notre recœur de journalisme qui a beaucoup, beaucoup bossé avec Yvon Matin ces derniers temps, puisque vous étiez un peu partout, Christian. C'est Christian Capitaine, bien sûr. Merci, Christian, d'être
avec
venu
plaisir,
sur le plateau.
Bonsoir à tous.
Merci encore. Voilà, notre journaliste de Radio Immo, spécialiste également des ressources humaines avec Job Radio également. Il nous a rejoint il y a quelques temps. On est très heureux de l'avoir dans notre équipe, dans la team. C'est Jean-Baptiste Venin. Comment ça va, Jean-Baptiste ?
Très, très bien, Sylvain. Plaisir partagé, évidemment.
Merci, Jean-Baptiste. On est très énervé ce soir. On n'a pas l'air comme ça, les amis. Mais je peux vous dire que les journalistes, là, autour de la table, ils ne vont pas ménager leurs efforts. Et jusqu'à présent, on vit encore en démocratie. Donc, on va peut-être pouvoir dire un peu ce qu'on veut et éviter qu'on nous écrive les questions. Je dis ça, je dis rien. Voilà, je suis comme ça. Bonsoir Régis Sébille.
Bonsoir Sylvain.
Comment ça va ?
Très bien Sylvain.
Le grand monsieur data de Bien Ici.
Grand parenthèse, mais oui, pour la data, je suis toujours là.
Voilà, c'est important puisque, je le dis surtout pour Anthony, chaque mois dans le grand jury, on a des données chiffrées qui nous permettent d'alimenter nos débats, mais on a également des reportages. Et on a tourné d'ailleurs un reportage qu'on verra tout à l'heure, les amis, réalisé par notre ami Alexandre Burkhardt, sur justement, est-ce que les Français font la différence entre un agent immobilier, par exemple, ou un mandataire. Vous allez voir, ça mérite quand même d'être entendu, comme quoi, finalement, dans la maîtrise de l'usage, ça c'est bien d'écouter les Français et leurs besoins. Ça remet les choses un peu dans le bon ordre. Voilà, on va avoir bien sûr un grand témoin qui est avec nous sur le plateau, un grand monsieur également de l'immobilier qui a développé, qui a acheté un réseau il y a quelques années, qui l'a développé, surdéveloppé, qui est une marque aujourd'hui de qualité, présente avec une très très forte, et ça c'est impressionnant, on en parlera tout à l'heure, une très forte capillarité géographique. Il est allé là où les Français en avaient besoin. Il est le président de propriétéprivée.com. Bonsoir Michel Le Braz.
Bonsoir Sylvain.
Merci d'être avec nous.
Ben merci, c'est la deuxième fois.
Ouais, ça fait un moment qu'on vous attendait.
Hein, oui, parce ça fait un moment.
On voulait avoir votre vision, bien évidemment, on a reçu tous les grands patrons de réseau. Il fallait que vous veniez sur le plateau, surtout dans un contexte sévèrement chahuté. Même si effectivement, quand on regarde vos chiffres, on se dit, je ne sais pas, il a la martingale, il a un secret de fabrique, parce que propriété privée... Pardonnez-moi de vous dire ça, mais connaît pas la crise hein, en termes de chiffres.
Faut pas exagérer, ça a quand même été une période compliquée, mais on s'en sort quand même.
Moi, j'ai vu vos performances d'octobre.
Oui, elles sont très bien.
Historiquement, c'est plutôt pas mal. C'est important. Alors, je veux dire, c'est pas anodin ce que je dis, bien évidemment, et je rappelle que vous m'avez pas payé pour le dire, hein, donc on peut le dire comme ça. Non, ce qui est pas anodin, c'est que en fait, on se rend compte que y a un professionnalisme qui règne au sein de votre réseau. Et ce qui serait intéressant, c'est de partager votre expérience de comment finalement dans un marché contracyclique, vous avez quand même performé en termes de transactions. C'est intéressant d'avoir les bons tuyaux, comme quoi finalement, il y a aussi ce qu'on appelle les fondamentaux hein, qui fonctionnent plutôt pas mal. Je vous propose, les amis, il est 18h37, qu'on commence, comme d'habitude, il est d'usage, par la météo de l'IMO avec notre ami Régis Sébille, tout de suite après ça.
La météo de l'IMO, par Bien Ici.
Mon cher Régis, ravi de vous retrouver pour cette chronique qu'on va dédier toujours, bien évidemment, à l'immobilier. Alors, on s'était dit qu'on ferait un bilan avant la fin de l'année, un peu tout azimut, location, achat, transaction, partout en France. Est-ce que la situation aujourd'hui, si on doit mesurer avec le mois dernier, lorsqu'on s'est vu, est favorable pour les acheteurs? Dans quelle grande ville française, notamment, vous allez nous conseiller peut-être de mieux acheter ou peut-être de négocier tout de suite, bien évidemment avec la météo de l'IMO. On va commencer avec vous par un état global. Comment se porte notre marché aujourd'hui?
Alors, le marché au niveau global, on va retenir surtout le niveau de l'offre. Et cette offre qui baisse sur les derniers mois, c'est-à-dire qu'on va avoir plus de biens à sortir du marché que de biens nouveaux à rentrer. En gros, on va avoir un palier d'offres assez haut qui a été atteint en fin d'année 2023 et début 2024, où vraiment, là, on avait une rotation qui était plus lente, une durée de diffusion qui était plus longue. Donc, les biens ne sortaient pas facilement du marché. Et là, on revoit depuis le printemps et surtout l'été, une baisse du volume d'annonces, surtout du côté des appartements à vendre et dans les villes et leurs périphéries. Du côté de l'offre de maison, c'est plutôt stagnant. Là où ça baisse un peu plus vite qu'ailleurs, c'est en périphérie des grandes villes. Donc on a toujours ce côté attractif là où il y a les zones d'activité les plus grandes. Et ce qu'on va retenir sur cet état des lieux un peu global de cette année, c'est qu'on est sur une année 2024 qui est une année de transition. Donc on avait 2023 qui était l'année de l'attentisme. En gros, on attendait que ça bouge, que le marché reprenne. Là, on est plus dans une année de transition où on a les premiers signes qui rentrent. Et la question, c'est est-ce que 2025 va être vraiment l'année de la reprise? Pour cela, on a déjà des bons signes, et c'est ce qui est important. Les bons signes, c'est une demande qui repart, donc depuis le printemps-été. On le voit en tout cas sur bienici.com avec plus de demandes sur les annonces de biens en vente. Et surtout, un double effet de gain de pouvoir d'achat. D'un côté, avec une baisse des prix qui a lieu depuis quelques mois, même un petit peu plus d'un an si on veut être exact. Et surtout, une baisse des taux de crédit qui encourage plus favorablement le financement.
J'aimerais qu'on approfondisse, si vous voulez bien, justement les taux. On se situe à combien aujourd'hui, très concrètement?
Alors, aujourd'hui, sur les périodes
10, 15, 20, 25 ans.
On est aux environs de 3,5 en taux de crédit. On peut être un peu en dessous pour les meilleurs taux.
Sur quelle durée?
Sur du 20-25 ans, oui, les durées moyennes les plus demandées. Donc quand on parle des durées de crédit, aujourd'hui, on a plutôt tendance à les allonger parce que le coût est plus cher.
Ben oui.
Donc on va plutôt s'intéresser sur du 25 ans que sur du 20 ans qu'on pouvait regarder il y a encore quelques années.
Là, ça a baissé. Hein. Mais c'est descendu globalement au-dessous de 4.
Alors, c'est bien descendu en dessous de 4. On est plutôt aux alentours de 3,5. Il y a un an, fin d'année 2023, on était au-dessus de 4. On était même à 4,3% au niveau d'octobre ou novembre.
C'est pratiquement 75 points de base de réduction, alors que la hausse avait été quand même assez violente.
Exactement. Et j'ai fait le petit calcul rapide, justement, par rapport à un taux à 3,5. Si on va emprunter juste 10 000 euros, un taux à 3,5 sur 20 ans, c'est à peu près un coût de crédit de 3 900 euros. Et sur 25 ans, environ 5 000 euros. C'est-à-dire que ce coût de crédit-là, c'est 1 000 euros de moins qu'il y a un an quand les taux étaient à 4,3%.
Bien sûr. 100 000 euros, pas 10 000
euros. Sur 10 000.
Sur la base de 10 000 euros, la simulation a été faite sur 10 000 euros.
Et oui.
On paye 5 000 euros de...
Et oui, oui,
on
oui.
Paye c'est, la moitié
c'est énorme, c'est quasiment 50%, oui.
Oui,
vous empruntez 10 000, vous remboursez quasiment 14 000. Ouais,
14 000. Oui, mais c'est le mécanisme des intérêts techniques. Vous savez comment ça fonctionne, les intérêts. Parce que souvent, l'erreur qu'on fait, et d'ailleurs, je vais vous dire, un jour, on fera une émission là-dessus. Vous savez, quand on calcule le taux d'intérêt, on dit, ben, je paye à 3 %, tu sais, puis là, tu prends la mensualité, tu dis, ben, c'est par 3 %. Ben, en fait, non. Le mécanisme de calcul, si on prenait le taux effectif global, est nettement plus élevé. Donc, effectivement, ça représente...
Et il y a l'impact de la mensualité.
Ouais. Quand ça allait bien, c'était entre 20 et 25 % du volume total du crédit. Là, on a quasiment doublé.
Et la mensualité, c'est là ce qui va parler davantage. C'est que cet écart, en passant de 4,3 à 3,5 en un an, c'est un écart de mensualité d'à peu près 100 euros de moins de remboursement de crédit par mois pour financer un bien de l'ordre de 250 000 euros, un peu l'équivalent de 50 mètres carrés dans des grandes métropoles françaises sur 20-25 ans.
Ce qu'il faut comprendre dans ce que vous dites, parce que ça c'est hyper prosaïque, oui, c'est que ça resolvabilise un cinquième des primo-accédants.
Voilà. C'est très très important, oui.
1000 balles, 100 euros, ça resolvabilise dans les fourches codines du HCSF. Ça a l'air de rien. On est à 100 euros près, hein.
Oui, oui, non, mais c'est... En fait, 100 euros, quand on regarde les 30%, oui. tout bêtement, oui. c'est, comme, ah, oui. si, c'est comme si on nous demandait de gagner 300 euros de plus, ou enfin, en l'occurrence, 300
exactement.
Euros de
moins. Ouais. Exactement. Justement, vous partagez cette idée, bien évidemment, hein, Michel.
Ah bah sur l'évolution des taux, oui.
Ça resolvabilise tout de suite, mécaniquement.
Ah, on l'a vu, on a vu apparaître les primo-accédants là, depuis quelques mois sur le marché, d'accord. ce qui n'était plus du tout le cas pendant un an.
Parce que vous la faites, la corrélation, baisse des taux, augmentation de la primo-accession, c'est mécanique.
Tout de suite, oui.
Comme quoi, finalement, à la fois, bon, bien évidemment, je ne vais pas accuser le gouvernement, je vais m'arrêter un peu, de temps en temps, je me repose, là, c'est plutôt la BCE qui a baissé ses taux directeurs, mais on voit bien que, quand même, l'impact politique peut être déterminant dans le choix de laisser les Français pouvoir accéder à la propriété, et pas forcément quand on a 45 ans, quoi, je veux dire... Parce que franchement, vous savez, l'âge d'entrée, quand on acquiert son premier bien, il ne cesse de se rallonger là, durant les 10 dernières années. Je crois qu'on a pris quasiment 8 ans de plus.
Oui, et puis le nombre Isabelle. De propriétaires baisse.
Absolument.
Oui. On était à 57,7% de propriétaires de leur résidence principale en 2014. On est à 57,07 points. C'est 3 millions de ménages qui n'ont pas acheté.
C'est énorme. C'est énorme. Puis merci Régis.
Oui, j'aimerais connaître Anthony. Le nombre de propriétaires de moins de 30 ans à Paris.
j'en connais. Mais je vous donne que les noms.
Qui sont passés par la primo-accession, encore moins.
Non, mais j'en connais, mais je vous donne que les noms. Ils s'appellent Arnaud, Bolloré. Oui, bah des gens qui n'ont
pas moins
de
30
soucis.
Ans, quand
voilà.
même.
Non, j'exagère. Non, mais Anthony, vous avez raison. Je veux dire, même nous qui sommes un peu plus âgés que vous, on a dû, pour certains, quitter Paris pour pouvoir se loger correctement. Bon, moi, je vous le dis, moi, en ce qui me concerne, pour pouvoir me loger dans une maison que je voulais, c'est clair que c'était la deuxième couronne. Hein. Il n'y avait pas photo. Et encore, c'était pas évident.
Et on est heureux en deuxième couronne.
Et on est heureux en deuxième couronne, absolument. on aime beaucoup Montreuil, on aime beaucoup Fontenay-sous-Bois. Voilà, c'est très.
Je ne voudrais pas assombrir le tableau, mais quand même, oui. certes, les taux d'intérêt baissent, mais les droits de mutation vont augmenter. Oui. Pas pour les primo-accédants, d'après ce que j'ai compris. Oui. Enfin,
dévoilez pas le sujet, puisque comment on va s'énerver sur cette question.
Et les taux d'assurance multirisque habitation.
Je vous l'avais dit, hein, il fallait qu'elle vienne sur le plateau. Justement, gardez-le pour tout à l'heure, parce que je vais vous laisser le temps de lancer cette tendance.
La prime CatNat va doubler.
Oui. Alors, un point sur locatif. Alors, justement,
Le locatif, je me répète, en fait, à chaque fois, hein, c'est toujours très compliqué. Le pic saisonnier, il est passé. Le stock, il est forcément très très bas aujourd'hui et la demande, elle est toujours là. En fait, ce qu'il faut.
Ça ne s'est pas arrangé du tout. Hein,
alors, ça
ne
s'est pas arrangé. Ce qu'on avait dans les années traditionnelles avant 2021, c'était une période du locatif qui gérait 80% de son marché, même plus, de juin à septembre. Et aujourd'hui, on a quand même un marché et surtout une demande qui se veut tout au long de l'année. La situation, elle est plutôt désastreuse au niveau des jeunes, qu'ils soient étudiants ou jeunes actifs, pour trouver un logement, pour se lancer. On l'a déjà évoqué lors des missions précédentes, mais en gros, on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui loupent un peu la première marche de l'ascension de la vie active.
17% fin septembre 2024, ouais. Il était 14% en 2023, ont arrêté leurs études. Et sur le nombre d'élèves, alors je prends le cas de La Rochelle parce que ça nous avait frappé, mais aussi la région nantaise et la région lyonnaise, on avait un peu moins de 10% des jeunes qui vivaient soit dans leur voiture, soit dans des campings.
Non, mais c'est...
À l'année.
Il y a 100 000 personnes qui vivent à l'année dans des campings en France.
C'est juste énorme. Il y en a même un qui est un jeune, et d'ailleurs j'ai souvent repris son c'était vraiment... Voilà, on ne peut pas rester comme ça, insensible à ça. D'ailleurs, on a fait un dossier sur le mal-logement, justement, avec Habitat Humanisme, il y a un mois, qui disait « J'ai trouvé plus d'aide à la voiture électrique que pour m'aider à me loger, moi. » J'ai trouvé ça assez saisissant, la comparaison entre... dans le langage, vous voyez ce que je veux dire, Michel ? On tient un jeune qui entre dans la vie active. Et ce qui est très intéressant, c'est que Habitat Humanisme, on a fait un focus sur les seniors. Et en fait, ils ont la même difficulté. Quand la retraite arrive, il y a une chute de revenus qui est très drastique. Et donc, ils les obligent à revoir leur habitat. Pour ceux qui n'ont pas accédé à la propriété, ils n'ont plus les moyens de payer le même loyer. Ils se retrouvent dans la même situation que ceux qui arrivent dans la vie active. Et je trouve très symbolique, dans une société comme la nôtre, qu'on ait ces difficultés à l'entrée et ces difficultés à la sortie. Je pense que quand on en est là, il y a un vrai sujet politique. Voilà, ce que vous en pensez.
Surtout qu'il y a deux populations, Anthony. Aussi bien les seniors que les étudiants, qui peuvent se retrouver du coup en concurrence pour un même bien, ce qui paraît quand même assez dingue de se dire qu'avec des écarts d'âge aussi importants, okay. Ils puissent éventuellement se retrouver concurrencés pour un même appartement à louer, par exemple.
C'est un sujet énorme. Hein.
Et, oui.
Et ça s'arrange pas du tout. Est-ce que globalement, quand on voit justement, alors c'est vraiment désespérant. Alors, ce qui est désespérant également, c'est de voir aussi la détention justement là du marché locatif dans des zones qu'on peut dire, je vais pas dire les territoires perdus de la République, mais par exemple, je suis allé à Nevers. À Nevers, on entend le vent souffler. Hein.
C'est-à-dire que le Paris-Nevers, pour venir travailler, est un peu plus compliqué.
Je suis allé à Saint-Dizier, qui est en train de se redéployer, et on a un maire extraordinaire avec Le Figaro, qui est allé faire une émission qui s'appelle Les Clés de la Ville à Saint-Dizier, avec un grand projet de redéploiement. C'est juste à une enclavure de Paris, où là, on a un prix au mètre carré de 850 euros. Et vous êtes en une heure et demie à Paris. À Roubaix, on met 53 minutes. Pour aller à Roubaix, on trouve encore à se loger. Je trouve terrible de se dire finalement qu'on ait des territoires comme ça qui eux-mêmes, dans la loterie finalement des territoires les plus prisés, se retrouvent avec des biens immobiliers parfois désuets et qui mériteraient d'être rénovés à des coûts vachement attractifs. Vous en pensez quoi, vous, Christian ?
Non, mais c'est vrai que c'est... Bon, moi, je voulais revenir avec Michel, parce que je sais que chez Propriété Privée, vous êtes très fort, vous, sur tout ce qui concerne le locatif, gestion locative. Et c'est assez atypique pour un réseau mandataire, finalement. Hein.
Oui, on a investi il y a quelques années dans le domaine d'activité. Et là, on a réinvesti sur une structure il y a deux ans. Et effectivement, ce qu'on constate depuis... Non, il y a trois ans même. Ce qu'on constate depuis deux ans, c'est qu'il y a... L'année dernière, il y a déjà eu, pendant l'été, une baisse de 30% du taux de rotation des logements, et de nouveau cette année, pendant l'été, de nouveau une baisse encore de 30%. C'est dramatique. En fait, le marché de l'immobilier, aussi bien locatif que dans la vente, est complètement bloqué. Il n'y a pas d'écoute, tout le monde s'en fiche globalement. Et malheureusement, on arrive à une situation qui, à mon avis, dans d'ici trois ans, va être dramatique. Si on ne fait rien sur le locatif, ça va être dramatique.
Oui, je suis absolument d'accord avec
vous. Pour l'instant, ça reste un sujet, on se dit tous, oui, c'est embêtant. Dans trois ans, ça sera dramatique. Et s'il n'y a aucune raison que ça change, on va constater après une hausse des loyers très rapidement, et puis le phénomène va s'enclencher, et du coup ça va exclure une grande partie de la population du logement décent.
C'est exactement ce dont on va parler, parce qu'effectivement c'est mécanique, hein, ça fait augmenter les prix, et donc du coup voilà, gentrification, tout ce qu'on on en parlait tout à l'heure en rentaine.
Le pipeline des locations, qui soit des locataires qui deviennent accédants et bloqués, et les investisseurs locatifs. J'avais une dame, une gérante à Annecy qui gère 200 logements. Elle me dit, moi, j'étais quand même alimentée par les Pinel, etc. J'en ai plus.
Ah oui, absolument.
Une si grande tension à Annecy, notamment pour les gens, comme ils disent, payés en euros et pas en francs suisses. Ils disent comme ça, payés en euros.
On va devoir conclure. Est-ce qu'on redémarre. Non, mais soyons objectifs et vraiment réalistes. Redémarrage timide quand même pour 2025. Et puis, on va voir également, je voudrais que vous nous donniez aussi un peu de positif pour nous rehausser le cœur, notamment sur les investissements des villes qui ont quand même un peu le vent en poupe.
En gros, pour la petite note positive, en fait, ce qu'il faut voir et qui rejoint un peu tout ça, c'est qu'il va falloir viser sur cette bonne période actuelle, si on monte un an en arrière, en tout cas, où on a eu des prix qui ont baissé dans les villes, un petit peu dans ces périphéries de métropole aussi, et il y a des bons choix à faire. Je regardais sur les impacts de crédit et la resolvabilité, en tout cas pour acheter dans les villes, c'est de l'ordre sur des crédits sur 20 ans, 25 ans, de l'ordre de 25 000 euros de pouvoir d'achat pour un T3.
C'est
dans
énorme.
Des villes comme Montpellier, Nantes, où c'est assez énorme en termes de gains de crédit pour un emprunt sur 20 ans.
Entre quand la baisse des prix et la baisse des taux.
Alors, juste sur la baisse des taux, et quand on regarde la baisse des prix seulement sur les appartements en centre-ville, c'est de l'ordre de 5 à 7% dans beaucoup de métropoles. J'exclus Nice et Paris, qui sont des marchés vraiment à part à ce niveau-là. Mais globalement, on est de l'ordre de 5 à 7% sur du T3. Et quand on parlait du locatif tout à l'heure, le locatif, lui, sur ce même segment de 3 pièces, il augmente. Il augmente de 2%, 3%, 4%, voire même 10% dans certaines villes. Et quand on dit ce loyer médian, en tout cas, qu'on observe, c'est aussi lié à l'offre disponible. C'est-à-dire que forcément, il y a moins de biens à louer. Et du coup, ceux qui restent, c'est les plus chers. Donc la note positive, juste pour terminer, oui. Sylvain, si vous me l'accordez, c'est qu'il y a un bon moment. Et il y a aussi cette alternative qui est intéressante, et vous en parliez tout à l'heure, de l'offre en périphérie des villes. Et quand on regarde des villes comme Lille ou comme Bordeaux, on peut trouver des biens pour le prix d'un T3 en centre-ville. On peut trouver des maisons encore à 30-40 minutes de ces centres-villes. Je pense notamment à Senon, Lormont, du côté de Bordeaux, qui est une zone qui n'est pas encore tout à fait développée, mais qui se développe de plus en plus, où c'est des bons coups à jouer. Et dans le sud de l'île, on en a parlé il n'y a pas très longtemps ensemble, du côté de Ronchin, par exemple.
C'est intéressant. Alors, heureusement ou malheureusement, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils sont à l'abri de la spéculation immobilière. D'ailleurs, halte à la spéculation sur le logement.
Oui.
C'est pour Isabelle. Mais le caractère spéculatif est délétère. Il faut aussi rappeler que les professionnels ne sont pas là. Et c'est très important. Je suis bien placé pour le savoir, pour faire de la spéculation et pour justement être un acteur économique, un agent économique essentiel dans le rôle justement de l'acquisition. Parce que pour rappeler quand même que les propriétaires, mais on peut les comprendre, estiment que leur bien, c'est la huitième merveille du monde, qu'ils essayent d'en tirer le maximum, et que bien sûr, sans les accuser de cupidité absolue, c'est normal qu'ils essayent d'en tirer le maximum. Donc c'est important parce que le professionnel vient un peu essayer de remettre de l'ordre avec la législation, le poids normatif dans tout cela. Donc quelques indicateurs, mon cher Régis, qui sont positifs, mais on n'est quand même pas tout à fait sorti de l'auberge.
On espère qu'on va en sortir prochainement.
Méthode Coué. Merci Régis Sébi, voilà, le monsieur data de bien ici. Vous retrouverez d'ailleurs l'adresse de l'URL au bas du podcast, comme d'habitude. Voilà, c'est parti pour la revue du grand jury.
Le grand jury de la presse immobilière, la revue du grand jury.
Voilà, chaque journaliste, chaque mois, livre son coup de cœur et son coup de gueule. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de coups de cœur ce soir, mais quand même, on va essayer de leur donner la chance au produit. Je vous propose qu'on commence par vous, Isabelle. On va commencer par un coup de chapeau.
Oui, coup de chapeau. En ce moment se déroule le procès de la rue d'Aubagne à Marseille, où l'effondrement de deux immeubles a fait 8 morts. Et on voit bien l'incurie des propriétaires, des pouvoirs publics. Et je voulais souligner la politique du logement qui a été menée d'abord par Bertrand Delanoë et aujourd'hui Anne Hidalgo qui a annoncé qu'elle ne se représenterait pas, donc durant 4 mandats, 2001-2025. Ils ont mené une politique de lutte contre l'habitat insalubre, une politique qui ne leur apportera aucun électeur, que personne ne connaît, qui est totalement invisible, mais ils ont traité 1000 immeubles insalubres dans Paris. C'est une lutte extrêmement difficile à mener sur le plan technique du bâtiment, sur le plan juridique, avec des marchands de sommeil qui organisent leur insolvabilité, qui contestent les arrêtés de péril, qui se planquent. Donc, ils ont relogé les occupants de ces immeubles. Et je ne sais pas si l'insalubrité était éradiquée à Paris, mais ces 1000 immeubles ont été traités en plus de 20 ans, bientôt 25 ans. Et ils ont inventé des outils opérationnels comme la Soreca, la société de requalification qui œuvre à Paris, mais aussi en Seine-Saint-Denis, qui, avec une équipe dédiée, c'est très compliqué à faire, je reconnais, pour les villes. C'est techniquement, juridiquement difficile. Il y a des indivisions, il y a la copropriété, il y a des SCI. Il y a des arrêtés d'insalubrité, des arrêtés de péril qui ne sont pas les mêmes. C'est pas la même. Une fois, c'est l'État, une fois, c'est la ville. Enfin, bref, c'est un dossier difficile. Et donc, moi, coup de chapeau pour ces 1000 immeubles d'habitat insalubre qui ont été traités.
Il faut rappeler d'ailleurs que la qualification pénale des marchands de sommeil comme un dealer de drogue, par exemple, c'était Julien de Normandie qui avait fait passer le texte à l'époque. Ce genre-là, enfin, ces personnes-là, faut le dire très clairement, ce sont des criminels. Ce sont des criminels qui n'ont absolument aucune morale et capables de loger des gens dans des conditions absolument incroyables. Vous rappelez ces reportages justement dans le quartier de la rue d'Aubagne sur des personnes, des petits commerçants qui louaient à vil prix des souplexes qui étaient des caves aménagées tout simplement, ce qui avait un tout petit peu de lumière avec des problèmes d'insalubrité. Je me rappelle d'une petite fille qui est dans un couple de personnes qui étaient, alors bien sûr des personnes récemment arrivées en France, qui était atteinte de maladies cardio-respiratoires à son âge, qui était absolument incroyable, qui aurait pu être évité avec le... Voilà. C'est juste criminel, il n'y a rien à dire là-dessus. Et je suis d'accord, il faut saluer la mairie de Paris, ils ont au moins ça de bien. Ce qui serait bien, c'est d'éradiquer les 5 millions de rats dans Paris qui circulent, parce qu'il y en a bien plus de rats dans Paris que de Parisiens, parce que c'est absolument incroyable. Phénoménal. On a un coup de gueule, le coup de gueule d'Isabelle, rapidement, c'est les chiffres de la construction sont mauvais, avec seulement
269 000 logements commencés entre octobre 2023 et octobre 2024. On était à pas loin de 500 000 en 2016. Donc une chute qui continue et qui est dramatique. Je voudrais quand même donner un deuxième coup de cœur, c'est à Madame von der Leyen, la commissaire européenne, car elle a nommé un commissaire européen au logement, un Danois, Dan Jorgensen, qui, parce que notre problème, il est européen, qui veut lancer des fonds, des outils pour que les États investissent dans ce qu'ils appellent le logement abordable. Et c'est la première fois qu'on a un commissaire européen au logement.
Comme c'est la première fois depuis qu'Emmanuel Macron, comme quoi il faut, voilà, de temps en temps, on est un peu touché par la grâce, qu'on ait quand même une mise de plein exercice. Il était temps de prendre, parce que effectivement, le phénomène du logement qu'on a en France, du mal logement, il est partout en Europe, hein, pour être très très clair là-dessus, avec plus ou moins d'extension selon les politiques des pays. Voilà, notre nouveau collègue journaliste de la presse, et chez Immo Week notamment, Anthony Denay. Vous avez, vous, un coup de gueule, c'est la fraude au DPE énergétique, donc au diagnostic de performance énergétique. Et plus largement, c'est la fraude, effectivement, aux ZEN. Hein, elles étaient de 400 millions d'euros en 2023.
Exactement.
C'était absolument phénoménal. Là, encore une fois, c'est des voyous, des criminels, qui, malheureusement, ont des effets délétères, à la fois suspicion sur la profession, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a aussi des bons players, Anthony.
Exactement. Bah... Déjà, tout simplement, il y a une catégorie de propriétaires pour qui le goût du champagne risque d'être un petit peu amer lors du réveillon de la Saint-Sylvestre. Et cette catégorie, eh bien, c'est ceux qui possèdent un, voire plusieurs logements classés G au diagnostic de performance énergétique, puisqu'ils ne pourront plus les louer à compter du 1er janvier 2025. Voilà. Les F devront suivre en 2028, mais ça leur laisse un petit peu plus de marge de manœuvre. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Vendre ? Pour les G, il leur reste un mois pour le faire, ça risque d'être un peu juste. Engager des travaux, ça risque d'avoir un certain coût et de prendre plusieurs mois. Donc c'est autant de mois où aucun loyer ne pourront être perçu. Donc je pense que vous me voyez arriver. Qu'est-ce qu'ont trouvé certaines personnes justement pour pouvoir être encore dans les clous à partir du 1er janvier ? La fraude. Donc c'est l'entreprise Carnot qui se présente, je cite, comme une intelligence artificielle détectant les fraudes au DPE, qui a révélé cette semaine donc, qu'il y avait prétendument 1,3 million de biens qui pourraient être concernés par ce qui est décrit comme une fraude massive, afin de faire sortir de justesse du statut de passoire énergétique le ou les appartements concernés, donc de façon un chouïa zélé et pas du tout respectueuse des normes en vigueur. Et en clair, donc la situation actuelle, c'est faire basculer les logements des G en F, voire en E. Donc c'est un tour de passe-passe qui est synonyme de double injustice, donc une injustice à la fois vis-à-vis de celles et ceux qui ont sérieusement entrepris des travaux d'amélioration de l'empreinte environnementale des logements qu'ils mettent à la location, mais également à l'endroit des locataires qui devront payer un loyer nécessairement trop élevé pour des logements qui ne devraient plus être sur le marché à partir
de janvier. On va donner la source que vous avez citée, c'est la société.
C'est l'entreprise Carnot, K-R-N-O,
voilà,
pour être très précis.
Sur lequel il y a ces éléments-là, la fraude au DPE, Michel Lebras, c'est un fléau.
C'est sûr que c'est un élément d'injustice dans le logement. Donc c'est clair que dès qu'il y a une réglementation, il y a des gens qui essaient de la contourner. C'est le principe.
Comment vous faites chez Propriété Privée pour
essayer ? Non, on a des partenariats avec des sociétés sérieuses établies sur tout le territoire et qui du coup nous mettent quand même à l'abri de ce type de pratique quand même.
Ok. Vos mandataires, ils garantissent à leurs clients la fiabilité du DPE.
On ne garantit pas la fiabilité du DPE, on garantit qu'on s'adresse à un professionnel, enfin qu'on leur adresse un professionnel de qualité.
D'accord, que vous avez sélectionné, mais évidemment.
Dans des réseaux sérieux et qui ont pignon sur rue et qui ont des pratiques, des formations, des outils. Après, c'est au professionnel du DPE de faire son boulot. Ouais.
Bien sûr.
La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on contrôle finalement.
Oui, alors, mais justement.
Il y a un
projet de loi qui est sur la. Justement, on va en parler dans le débat. Vous avez un second coup de. gueule Anthony.
C'est même.
Dans le même truc, c'est à l'endroit des locataires qui doivent s'acquitter d'un loyer nécessairement trop élevé pour un logement.
Exactement. Bah, en fait, c'était la suite logique de ce que je viens de dire. En fait, le problème, ce que cette fraude met en lumière, c'est surtout le manque de professionnalisme du métier de diagnostiqueur aujourd'hui, avec un flou qui entoure cette profession assez nouvelle, puisque justement l'obligation de se conformer à un DPE est relativement nouvelle.
Vous avez raison.
Qui a ouvert la brèche à toutes sortes d'apprentis diagnostiqueurs, voire certains escrocs un petit peu attirés par un appât du gain d'autant plus facile à obtenir que certains propriétaires ont tout intérêt à réclamer une bonne note, quitte à mettre parfois la main au porte-monnaie. Et je ne citerai pas le cas d'incompétence et autres tartuffes un petit peu en la matière. Mais ce qui est intéressant par contre, c'est que là, on a appris récemment que la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers, donc la CDI, créée en 2007 et présidée par Yannick Aynouch, a décidé, à l'issue de son assemblée générale, de recouvrer une totale indépendance en quittant le giron de la FNAIM, donc c'est une annonce qui a été faite en début de semaine. Et donc la CDI vise dorénavant la constitution d'une alliance du diagnostic immobilier réunissant d'autres acteurs du DPE. Alors il y a l'alliance, il y a d'autres acteurs, il y a notamment la FIDI, donc la Fédération Interprofessionnelle du Diagnostic Immobilier, il y a la CIDIAN. Et en fait, c'est vraiment une alliance qui permettrait d'assurer une coordination efficiente donc concernant les grands enjeux du secteur, la formation, le recrutement, le contrôle et la certification.
Anthony, est-ce qu'on sait pourquoi, parce que j'aime bien les ragots, est-ce qu'on sait pourquoi la FNAIM et les CDI ont divorcé?
Bah, a priori, ils vont continuer de travailler ensemble. Il n'y a pas eu de... On va dire c'est pas réellement un divorce, une petite séparation.
D'accord,
en tout cas, c'est plus la... je pense que la CDI s'est rendu compte que la marge de manœuvre était assez délicate et peut-être que pour professionnaliser le métier, ils souhaitent plutôt une alliance avec d'autres diagnostiqueurs davantage qu'avec la FNAIM. Mais en tout cas, ils ont affirmé vouloir continuer à travailler avec la FNAIM. De toute façon, ils seront obligés puisque...
C'est très clair.
Voilà, il y aura forcément des choses imbriquées.
Merci beaucoup, Anthony, pour ce coup de...
C'est pour une question d'indépendance vis-à-vis des agents immobiliers ?
C'est pour une question d'indépendance.
Oui, ça pourrait.
Et c'est surtout pour une question de créer un véritable réseau. C'est en tout cas ce qu'ils ont dit, c'est de créer vraiment le réseau des diagnostiqueurs immobiliers pour créer un véritable métier à ce niveau-là.
Vous voulez ajouter ?
Oui, plus que le sujet de leur fédération, de leur regroupement, c'est le volume concerné par l'analyse, là, puisqu'on parle d'un 1,3 million de logements. Ouais. Pour rappel, les logements G en catégorie G, c'est un peu plus de 3 millions. 3 millions 2, 3 millions 3 de logements. Donc 1 million 3, c'est énorme, c'est gigantesque. En F, on doit être à peu près aussi aux alentours de 3 millions de logements. C'est absolument gigantesque. Il y a vraiment une fraude à cette échelle, c'est gigantesque sur le marché.
C'est massif, vous avez raison de le dire. D'ailleurs, on parlera tout à l'heure.
17% de logements passoires thermiques.
Oui, les E, après, c'est à peu près 6 millions, 6 millions et demi de logements. Donc,
on parlera tout à l'heure, d'ailleurs, du projet d'amendement introduit par Daniel Labaronne, justement, sur la question du DPE. On en a parlé la semaine dernière également sur Sud Radio. Christian, alors, il va nous faire plaisir, Christian, parce qu'il va donner un coup de cœur, et ça, on aime beaucoup, un coup de cœur, un coup de pouce donné qu'un entrepreneur. Un sacerdoce d'entreprendre en ce moment. Vous voulez faire l'éloge de Thomas Peters, fondateur du réseau immobilier Mobilim.
Oui, les droits de mutation à titre onéreux, je laisse pour mon confrère à côté. On ne va pas parler non plus de la chute du marché de la construction. Donc un petit coup de pouce, un petit coup de cœur à un entrepreneur nantais, comme Michel, qui est un ancien publicitaire et qui a... Vous savez que chez Immomata, on est très branché réseau d'agences immobilières. Et donc, il vient de lancer un réseau d'agences immobilières. Bon, il n'y a pas encore d'agence. Elle va ouvrir en janvier 2025. Et alors, vous allez me dire encore un réseau. Bon. Mais en ce moment, il est un peu particulier. C'est qu'en fait, c'est un réseau d'agences immobilières mobiles. Je vois que Michel, il...
J'en connais.
Vous connaissez ?
J'en connais d'autres.
Je n'en connaissais pas.
C'est un bus
Alors, en fait, il va arriver avec des espèces de petites structures comme des petits chapiteaux.
Ouais.
Où ça ? Sur des parvis de centres commerciaux. Non. Alors moi, je trouve ça assez malin, parce que c'est vrai qu'en termes de trafic, ça équivaut quasiment à un emplacement numéro 1 de centre-ville.
Oui, c'est comme se mettre devant la poste, par exemple.
Par exemple,
comme ça,
voilà. Ouais, c'est exactement ça. Donc voilà, il lance ça à Nantes, au champ. À Nantes. Alors, c'est pas Saint-Herblain, j'ai plus le...
Le champ, c'est... non, c'est Saint-Sébastien.
Saint-Sébastien, ouais. Exactement. Donc, ben, vous pourrez le voir en janvier 2025.
Il sait tout, il est redoutable.
Et alors, il avait un petit coup de gueule. Quand je l'ai eu au téléphone l'autre jour, il me disait qu'il en avait un petit peu marre de... et pourtant, ça fait partie du métier d'agent immobilier, de ces agents immobiliers qui, sans cesse, vont chercher le client, qui font de la pige, qui font de l'intrusion. Alors... Je ne sais pas ce que vous en pensez, Michel, mais moi, je lui ai dit, mais c'est quand même la base du métier, d'aller chercher les clients.
Moi, je trouve que l'idée, alors aller chercher les clients, ça c'est évident qu'il faut aller chercher les clients. Mais par contre, je trouve que l'idée est très bonne. Et c'est justement, je pense tout à l'heure, on en parlera, mais c'est les nouveaux besoins, ou tout du moins les nouveaux moyens de rencontrer ces clients dans leur quotidien. Et non plus de les forcer à venir dans un lieu, mais au contraire, anticiper leurs besoins et aller en leur devant. Ça, je trouve ça hyper intéressant.
Alors qu'il faut quand même rappeler que les acquéreurs, ils viennent pour 90% d'entre eux via les portails d'immobilier. Donc, quand même, c'est...
Ouais, 92%, effectivement.
Ah, c'est 92%, oui.
92% font donc, on appelle ça le parcours résidentiel. Ouais. C'est Internet, hein, pour être très clair. Mais ça n'a pas fait disparaître les agents
de commerce. Il veut contacter des vendeurs ou des acheteurs?
Ah bon, la vie des deux? Plutôt les acquéreurs, certainement.
Il a un site, est-ce qu'il a un site internet?
Je pense qu'il a un site internet. Alors, enfin, en tout cas, alors, il a lancé une levée de fonds.
Oui.
Levée de fonds sur une plateforme d'investissement participatif. alors, il a besoin de 40 000 euros pour démarrer.
D'accord.
Il en est à 30 000. La levée de fonds se clôture le 15 décembre, donc avis aux intéressés.
Ok, on va lui faire un coup de pouce, d'accord? Parce que vous avez voulu faire un coup de pouce. Ouais.
Et alors, je termine oui. Donc, dans ces agences, il y aurait un pro qui aurait au moins 10 ans d'expérience et un junior, un profil un peu plus junior, pour avoir une sorte de complémentarité
dans les profils. Mais Chapiteau, il est dans le centre commercial
ou il est sur le parvis. Il est sur d'accord. le parvis mais s'il du centre pleut. Commercial. Pardon?
S'il pleut.
Mais en fait, il a une petite caravane, un petit chapiteau, une structure comme un mobile home, quoi.
Mais avec une connexion, les ordi portables.
Certainement.
Un groupe électrogène. Est-ce qu'il fait des merguez?
On peut en lui demander, on peut en lui poser
est-ce
la question.
Fait des merguez? Non, parce qu'il peut faire un deal avec quelqu'un qui fait des merguez, lui, il ne fera pas d'immobilier. Mais, voilà. mais c'est hyper intéressant.
Voilà, c'est marrant.
C'est intéressant. Donc, on en parlera avec Michel, mais vous avez raison. Il y a une chose sur laquelle il a absolument raison, c'est d'aller au-devant des gens dans leur vie quotidienne avec les mêmes préoccupations, parce que la question du logement est devenue la préoccupation première. Je reviendrai notamment sur les statistiques INSEE, sur les efforts contraints, les dépenses contraintes des ménages, qui est assez éloquent. Il s'appelle Thomas Peters, Mobilim. Je vais demander à notre ami Jason de mettre Mobilim. Vous avez juste à faire la requête sur Internet et on trouve son site Internet. Merci Christian.
Il veut ouvrir 15 agences la métropole nantaise.
Alors 15 agences, ça veut dire
15 chapiteaux.
15 chapiteaux.
À échéance 2029.
Voilà.
Qui se donne un petit peu de temps quand même. Ouais.
Il est raisonnable, voilà. Ce monsieur, c'est bien.
Voilà.
C'est bien. Et alors, c'est un réseau d'agences immobilières, il a une carte T.
Hein. Il a sa carte T, absolument. Okay. Et c'est un développement en propre. Il n'y aura pas d'affiliation en franchise ou en licence de marque ou autre. C'est il se lance.
Et ben voilà, c'est
donc
dit.
Bonne chance à notre ami Thomas Peters.
Bonne chance à Thomas Peters du réseau immobilier Mobilim. Merci encore une fois. Jean-Baptiste, coup de cœur pour la hausse enfin des permis de construire octroyés, mais très légère.
Oui,
très légère. Non, mais symboliquement, c'est bien.
C'est un signe positif.
Vous y étiez au Salon des maires? On s'était croisés? Oui, on s'est croisés au Salon des maires. Au Salon des maires et des collectivités locales, on a vu des maires qui étaient en disant, voilà. Qu'on a placé parfois dans des équations difficiles à trouver avec des compétences sans recettes, qui a freiné aussi les permis de construire. Mais là, on voit que ça repart un petit peu. Et vous avez également je crois qu'il y a un coup de gueule ce soir.
Oui, il y a un coup de gueule. Oui. Hein, oui.
Voilà, le coup de gueule, c'est
sur
les DMTO, les fameux DMTO avec les acheteurs privés. On vous écoute, Jean-Baptiste.
Alors, on commence par le coup de cœur qui va être rapide. C'est symbolique, mais quand même, c'est bien de le signer. En octobre, le nombre de permis de construire pour le logement en France a enfin augmenté, 12,9% de hausse sur un mois. Ce sont les données du ministère du Logement et de la Rénovation Urbaine. Un rebond qui est porté essentiellement par les autorisations de logements collectifs, appartements en immeuble, et puis en résidence, étudiantes, personnes âgées, situation de personnes handicap. 28 900 permis de construire ont été autorisés donc en octobre. Alors, 335 600 entre novembre 2023 et octobre 2024. Et là, on est en recul de plus de 10%.
Eh oui, bien évidemment.
Voilà.
C'est les permis, c'est pas les logements.
Non, sont des permis. On est bien d'accord.
Et après, il n'y a plus les ronds pour faire lancer les opérations. Ce qui fait qu'on se retrouve, c'est incroyable, hein, on se retrouve avec des stocks d'opérations purgées qui ne démarreront pas, quoi. Voilà, tout simplement. Il y a une chose qu'on a vue, je ne sais pas si tu l'as vue toi aussi, c'est que les promoteurs qui se portent un peu mieux, ils reprennent les permis à bon compte, etc., pour solder les créances. C'est absolument incroyable. Il faut rappeler que quand un promoteur, vous me dites, Christian, si je me trompe, fait une opération financière pour une promote, il faut qu'il ait vendu 30% pour avoir les financements de l'opération.
Je n'en sais rien.
C'est ça.
30 à 50% du programme.
C'est, ouais. Voilà, c'est... Ouais. Je crois que c'est ça, hein, c'est 30
Plus de 30.
Plus, ouais, pas loin de
50. Combien, combien? Pas loin de
50. C'est-à-dire qu'en fait, avant de démarrer l'opération, s'il n'a pas vendu 50%, il ne sera pas financé. Oh là, catastrophe.
Mais c'est surtout, dans ce contexte, qui va prendre le risque de prendre de la VFA, par exemple?
Oui. Et pourtant, Dieu sait qu'il ben, y a des besoins quand même en VFA. Le neuf. Oui. Vous habiteriez, vous, dans du neuf? Moi, oui.
Oui, bien sûr.
Moi, oui. Mais je préfère l'ancien. Non, je sais
que. Moi, non, parce que je trouve qu'il y a trop de malfaçons, trop de retard, c'est trop de galère. Mais
oui, pas.
Ça ne veut pas dire qu'il faut pas construire.
Non, mais pas Arros sur le neuf, bien évidemment. Les DMTO, droit de mutation à titre onéreux. Alors, je vais vous dire, là, vous pouvez vous lâcher, là.
Bah oui, c'est un coup de gueule sur les annonces, sur les rétropédalages autour des droits de mutation à titre onéreux, hein, qu'on appelle aussi abusivement les fameux frais de notaire. Alors, pour participer justement aux efforts budgétaires demandés au département, le gouvernement, qui est d'ailleurs toujours à la recherche d'un budget pour 2025, a annoncé pour une durée de 3 ans une hausse de 0,5% du fameux plafond des DMTO, des droits qui représentent quand même 1/5 des recettes des départements. Donc, évidemment, c'est pas négligeable.
Deuxième recette des départements.
Alors, évidemment, c'est une super mauvaise nouvelle pour les acheteurs. Pour un logement de 300 000 euros, l'augmentation va s'élever à 1 500 euros. Et ces fameux frais de notaire passeraient de 22 700 à 24 200 euros. Je rappelle quand même au passage que seuls les départements qui souhaitent appliquer cette hausse en profiteront. Ça n'augmentera pas les émoluments des notaires. Et depuis... Bah, Michel Barnier, il a senti un peu le vent tourner, la grogne monter. Et il a un peu rétropédalé en revenant sur certaines conditions. Les primo-accédants ne devraient finalement pas être concernés par ce possible relèvement de plafond et bénéficieront même d'un abattement. Et l'immobilier neuf, secteur en crise, ne serait pas non plus concerné par cette mesure. Et que les acheteurs soient d'ailleurs primo-accédants ou pas. Alors maintenant, est-ce que ça peut encore changer? Rien n'est moins sûr.
Michel Lebras.
Oui, ça peut changer. Oui. Ça vous a... Dès qu'il y a un problème, il y a une taxe. Oui. Donc ce principe. Donc après, on la retire parce que comme on n'a pas bien réfléchi à la taxe et ses conséquences, voilà, mais c'est un cercle sympathique.
Je voudrais signaler qu'en 2014, il y avait déjà une hausse de la taxe départementale, enfin des droits de mutation, la part départementale des droits de mutation de 0,5 points. C'est passé de 3,7 à
4,5.
De 0,7 points même. Et en fait, il y a eu des études de fait pour voir quel était l'impact. Et alors, avant la mise en application, il y a un afflux de ventes pour gérer d'opportunités. Après, il y a une baisse de 15 à 30% du nombre de ventes. Mais au bout de 3 mois, c'est absorbé. Et en fait, ce que démontre... Alors, c'était en 2014. Je pense qu'on est quand même dans un autre contexte économique.
Oui.
En fait, cette hausse a été complètement répercutée sur les acheteurs. Les vendeurs n'ont pas baissé leur prix. Ce sont les acheteurs qui ont payé pour un logement de 250 000 euros. Mmh. C'est à peu près 1 250 euros. Et donc, ça n'a pas eu d'impact en 2014. Et ça a été documenté. Il y a 2 études qui ont documenté. Est-ce que 2024-2025 sera la même chose? J'en suis pas sûre, parce qu'on est vraiment dans une grande difficulté. Mais ça se résorbera.
Quoi. Bien sûr.
Parce que...
Oui, Michel Goulet.
Oui, non, on verra, mais c'est clair que ça vient se rajouter dans un contexte difficile. Ça a un plus, plus, un plus, plus, un plus. Et moi, je vous ai parlé tout à l'heure de ce qu'on voit, nous, dans une évolution à court terme du marché. Moi, je pense que ça aura un impact, ça en aura un.
Oui. Même symboliquement, de toute façon, ça va dans le bon sens.
On va développer, on va développer justement tout ça pour ce grand débat. Mes amis, je compte sur vous pour poser toutes les questions utiles à notre ami Michel Lebras.
Oui. Sur le prix du logement, il y a 2 choses à nouveau inquiétantes. C'est le prix de l'énergie qui a quand même quasiment doublé.
Isabelle, je vous propose qu'on en parle dans le cadre du débat. Voilà, parce qu'on a...
Et les primes d'assurance.
Voilà, c'est le moment du grand débat avec vous, Michel Lebras. C'est tout de suite après ça.
Le grand jury de la presse immobilière, le grand sujet.
Alors, on vous parle à vous, Michel Lebras, parce qu'aujourd'hui, vous êtes sur le podium. Si on prend les 10 premiers réseaux français, vous êtes largement sur les premiers réseaux français. Vous êtes très connu, bien évidemment, surtout très connu, je disais tout à l'heure, dans les territoires, puisque vous aviez une stratégie. Vous l'avez toujours dit depuis qu'on se reconnaît. Vous savez qu'on se connaît maintenant depuis déjà 9 ans quasiment, où vous avez eu toujours cette stratégie de grande capillarité. Être mandataire, être agent immobilier, ce discours est maintenant bien derrière nous. Il n'y a plus de débat en ce qui concerne les besoins des Français. Les Français, ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est être logés. Je vous propose que nous commencions cette séquence par un reportage en images que nous avons tourné dans les rues de Paris pour aller à la rencontre de vos clients. Et on leur a posé la question, est-ce que vous savez ce que c'est que la différence entre un mandataire et un agent immobilier? Et on leur a également posé la question de savoir s'ils avaient envie d'investir toujours dans l'immobilier. On les écoute.
Avez-vous déjà investi en immobilier ou comptez-vous investir en 2025?
Oui, j'ai déjà investi, je suis propriétaire d'un appartement.
J'ai investi plusieurs fois, j'ai déjà acheté.
Actuellement non, mais à terme oui, au niveau de quand ma carrière va un peu évoluer, ouais, je compte acheter.
Connaissez-vous le métier de mandataire immobilier?
Pas du tout, non, je connais pas.
Non, j'en ai peut-être une idée, mais je suis pas sûre.
Non, pas du tout.
Pas vraiment.
Feriez-vous confiance à un mandataire immobilier dans la gestion de votre projet?
En général, je pense qu'il est plus intéressant de passer par des intermédiaires institutionnels, mais ensuite tout dépend vraiment du contact humain.
Non, je ne saurais pas où le trouver déjà, et puis d'autre part, comme je ne connais pas...
Enfin, ça dépend totalement du secteur aussi où j'achèterais. Sur Paris, je pense qu'il y a des agences qui sont plus spécialisées, mais je pense que justement, quand c'est dans des secteurs un peu plus reculés, au contraire, il y a des mandataires qui peuvent être plus intéressants.
Mais je ne serais pas contre rencontrer un mandataire, mais j'aurais quand même un petit doute. J'aurais un peu d'hésitation, donc il faudrait qu'il me donne confiance.
Aujourd'hui, avec les informations que j'ai, je préfère un agent immobilier, mais j'aurais la curiosité de regarder les deux pour comparer en tout cas.
Alors, de retour sur le plateau, merci Alexandre Burkhardt pour ce reportage. Qu'est-ce que ça vous évoque, Michel Lebrun?
Bah, c'est intéressant, en fait, c'est symptomatique de, déjà d'une chose que je pensais et qu'on pense dans les réseaux de mandataires, d'indépendants plutôt. J'aime bien le terme réseau d'indépendants. Le terme mandataire, il n'est pas très joli et il est seulement représentatif d'un lien contractuel. C'est qu'en fait, on a un défaut de enfin, les Français ne nous connaissent pas, en fait. Nous connaissent pas. On a, quelque part, un défaut de crédibilité aussi. Finalement, on a prospéré en travaillant, on va dire, sur le terrain, mais on n'a pas suffisamment communiqué de crédibilité. C'est ça que je cherchais. Et moi, c'est là-dessus que je veux travailler sur 2025, parce qu'on est des enseignes. Moi, la propriété privée, c'est une enseigne qui travaille, qui a 18 ans d'existence, qui existe, qui est présente sur tout le territoire, qui fait 10 000 transactions, plus de 10 000 transactions par an, qui est établie, qui a des process, qui a des très, très peu de contentieux, qui a une organisation, 57 000 heures de formation l'année dernière. Et finalement, tout ça, on ne le fait pas savoir. Et c'est symptomatique. Les gens disent, bah, j'ai pas confiance, voilà, je sais pas ce que c'est. Alors que finalement, bah non, vous avez une garantie de travail bien fait. Et c'est, il y a une grande importance de l'intuitu personnel. Le conseiller immobilier, c'est par lui, c'est par sa formation, son niveau relationnel, sa crédibilité, que se crée le lien et la confiance avec le client. Voilà. Et la personne a eu raison de le dire. En fait, en milieu rural, ça marche d'autant mieux qu'effectivement, ce lien se crée avec les gens.
C'est intéressant parce qu'il dit, dans des lieux reculés, ou dans des lieux, on trouve des mandataires.
Ouais, le terme reculé n'est pas très joli, mais...
Non, mais quand je dis reculé,
non, mais...
Il y a des critères, vous savez, des critères de ce qu'on appelle ça, zone de chalandise, un truc, c'est ça ? Volume, enfin, dans lequel on a des critères d'installation d'agence, voilà. On trouve des agents immobiliers, vous avez des mandataires, notamment dans certaines régions de Bretagne. Et s'ils n'étaient pas là, il n'y a rien qui se vendrait. Hein. Il y a même, vous avez même un de vos mandataires, je crois qu'il s'appelle Glohagen,
oui, ouais,
qui vend que des maisons en exclusivité sur son secteur, parce qu'il n'y a quasiment pas d'agence.
Ah, exactement. Lui, il était prof de mathématiques jusqu'à la retraite et il s'est mis à l'immobilier à la retraite et maintenant il doit avoir 72, 73 ans et c'est quelqu'un qui vend 50 maisons par an, quoi. Wow. Depuis sa retraite. Il s'est découvert
une passion,
un talent même.
C'est drôle ce que vous dites parce que j'avais fait une enquête sur qui était mandataire et j'étais tombée pas mal sur des profs, des enseignants. Et en fait, ils ont un réseau d'enfer, les enseignants. Mmh. Ils connaissent les parents, ils connaissent le quartier, ils connaissent... Et en fait, on ne s'attend pas à ce que des enseignants soient des commerciaux, je dirais. D'ailleurs, c'est... à mon avis, pas très légal de faire à la fois une activité commerciale et être fonctionnaire, mais ça m'avait frappé qu'il y avait pas mal d'enseignants qui se lançaient dans l'immobilier.
Alors, s'ils sont fonctionnaires, ils demandent l'autorisation.
Oui.
Ils le demandent systématiquement. Parfois, les refuser, hein, même une fois sur deux, les refuser. Et là, en l'occurrence, lui, c'était à la retraite. Donc, il a commencé à la retraite.
Oui. Il avait la possibilité
de le faire. D'autant plus que nous, dans notre réseau, on est spécialisé. Les gens qui nous rejoignent font de l'immobilier à temps plein. Donc, il commence parfois à mi-temps, mais rapidement, l'objectif, c'est de passer à temps plein. Donc, voilà,
J'avais été frappé du nombre d'enseignants.
Christian Capitaine, ça vous évoque quoi quand vous voyez le réseau propriétéprivée.com?
Alors, c'est marrant ce que vous dites, Michel, parce que vous dites on n'est pas encore assez connu, mais quand même, vous prenez des parts de marché sur, sur les réseaux traditionnels. Donc finalement, vous êtes plutôt sur une bonne dynamique.
Oui, mais on a un déficit, si vous voulez. On a beaucoup travaillé sur, sur la formation, l'accompagnement de nos conseillers, la crédibilité par le terrain. Et on n'a pas communiqué suffisamment. Clairement, il n'y a pas de grand baromètre avec le réseau propriété privée. On n'a pas travaillé pour faire savoir qu'effectivement, on a un centre de formation qui, je vous dis, c'est en 2023, je ne sais pas les chiffres 2024, mais 57 000 heures de formation. Tout ça, on ne l'a pas communiqué. Donc du coup, ça reste toujours pour certains acteurs, on va dire plus historiques du métier, quelque chose d'assez inconnu. Voilà. Et alors qu'on a une vraie action sur le terrain, dans 4 ans, la part des réseaux d'indépendants, et notamment les plus gros réseaux, seront majoritaires sur la transaction en France.
C'est clair.
C'est une réalité qui est en train de se
dessiner. Si on prend la courbe, effectivement... Vous connaissiez propriété.com, Anthony ?
Oui, je connaissais, bien sûr. Je me dis que peut-être que l'image... Enfin, ce qui peut faire défaut parfois à ce type de réseau, c'est dans l'imaginaire, d'ailleurs ça a très bien été dit dans le reportage, c'est le côté amateurisme qu'on peut parfois prêter à ce type de personnes, en considérant qu'il y a beaucoup de reconversions, par exemple. Des gens, on l'a dit tout à l'heure avec les professeurs, mais il peut y avoir d'autres catégories. Et c'est vrai que comparé à des agents immobiliers, pas dire professionnels, parce que ça voudrait dire que vous ne l'êtes pas, et ce n'est pas le cas, mais c'est vrai que dans l'esprit des gens, et encore plus dans des moments de crise où il faut parfois vendre très vite, où il faut essayer de maximiser ses chances, on a l'impression que du coup, vous pâtissez parfois d'une image un peu moins professionnelle. Et pourtant, vous l'aviez dit, je crois, il y a 2 ans dans une interview, où vous intégriez de plus en plus de professionnels au sein de votre réseau, peut-être aussi pour vous donner une image un peu plus crédible.
Est-ce que vous avez un secteur particulier, plutôt des maisons, plutôt...
Non, pour vous dire, non, Isabelle, pas du tout. Au contraire, on a fait une étude là, récemment. En fait, on a comparé notre portefeuille de biens, à peu près 20 000 biens, comparé aux biens qu'on peut retrouver sur le bon coin. On est, alors c'est étonnant, mais au pourcentage près, par tranche de 100 000 euros, on correspond exactement au marché type français.
Ah ouais ?
Ah oui, j'étais extrêmement surpris. J'aurais plutôt imaginé qu'on était plutôt vers des biens moyens, un peu plus bas. Non, on est exactement représentatif du marché français. Et donc les analyses qu'on peut faire sont assez représentatives du marché, surtout qu'on est présent sur tout le territoire, y compris les DOM. Ce que vous venez de dire, c'est assez vrai, mais néanmoins, les gens qui viennent de l'immobilier, les professionnels de l'immobilier au sens large, viennent très peu de l'immobilier en départ, en réalité, y compris les agents immobiliers. C'est de l'ordre de à peine 20%. Et finalement, tout le monde dans l'immobilier vient à un moment de la reconversion. Ce qui compte surtout, c'est de se former, d'être un bon professionnel, d'apporter un service à ses clients. Nous, chez Propriété Privée, un peu la particularité, c'est qu'on ne fait pas ce qu'on appelle de marketing de réseau. Ce n'est pas un réseau dans lequel on va apprendre à quelqu'un d'abord à recruter d'autres conseillers plutôt que de faire de l'immobilier. Nous, chez nous, on vient chez Propriété Privée pour être un professionnel de l'immobilier.
Donc, vous ne faites pas de marketing multiniveau. Vous n'avez pas, comme chez IAD, des groupes qui sont...
Voilà, non, après, nous, ce qu'on a, c'est qu'on a des évolutions de carrière avec des gens qui deviennent des représentants locaux. Alors, vous voyez, le terme, il est un peu désuet, mais néanmoins, c'est exactement ça. C'est un animateur, c'est un représentant local. Il représente localement, notamment à travers des partenariats, une présence sur le territoire.
Il gagne plus ?
Pardon ?
Est-ce qu'il gagne plus ?
Il gagne un peu plus, mais surtout, il va représenter la marque localement. Mais voilà, les gens nous rejoignent pour faire de l'immobilier à temps plein. C'est ça l'objectif.
Jean-Baptiste Boulier.
Non, pas nécessairement de questions, mais juste pour dire que, alors peut-être qu'on peut parler d'absence de communication, et encore, pour travailler pour un autre média qui s'appelle Job Radio, j'ai eu l'occasion justement de parler du réseau propriété privée, et c'était l'occasion justement de mettre en avant la formation, notamment, que vous proposiez à vos mandataires. Et là, effectivement, vous êtes très en avance aussi par rapport à d'autres réseaux. Vous avez aussi installé tout un tas d'outils à leur disposition. Donc finalement, ils sont professionnels comme d'autres. Quoi.
Oui, voilà, mais est-ce qu'il y a d'autres réseaux de mandataires se sont dotés aussi d'outils ? Qu'est-ce qui vous qualifie ?
Je pense que la grosse...
C'est quoi l'élément différenciant entre propriété, safety,
alors, la
IAD...
grosse différence, c'est que tous mes confrères, à peu près dans le top 5 des réseaux, sont tous en marketing de réseau. D'accord ? Donc, finalement, vous rentrez dans ce réseau pour faire de l'immobilier, mais aussi pour développer tout de suite une équipe. D'accord. Nous, chez nous, ça ne marche pas comme ça.
Alors, le marketing de réseau, juste pour ceux qui nous écoutent, très prosaïquement, ça consiste en quoi, en fait ?
Ça consiste, finalement, à répartir son effort entre un métier et le recrutement de personnes qui vont faire ce même métier, mais qui vont vous rapporter de l'argent. Voilà. c'est une autre vision de la profession immobilière. Nous, c'est effectivement, on va dire que c'est à la fois plus classique, mais en même temps, c'est une vraie conviction, c'est-à-dire que un conseiller propriété privée va se retrouver à travailler principalement sur ce qu'on appelle sa zone d'efficacité, à peu près 7000 habitants. Et là, ça va être identifié comme le professionnel référent de cette zone. Voilà. Il doit être identifié par la population, connu, sachant, connaissant le prix, connaissant le secteur, l'évolution des biens, parce qu'un professionnel de l'immobilier, c'est à peu près ça. Il gagne sa vie sur entre 7 et 10 000 habitants, pas plus. Hein. C'est vraiment un métier d'ultra-proximité. Et voilà, et on n'en met pas, on met pas 20 personnes sur une ville de 5000 habitants, comme on peut le voir dans certains réseaux.
Donc, sur un centre-bourg où il y a entre 5 et 7 000 habitants, il peut y avoir un
conseiller propriété.
Il n'y en aura pas deux.
Il n'y en aura pas deux. Voilà. Et cette personne, ça va être le référent.
Donc, vous faites de la circonscription. Donc,
exactement. Okay. Je prends l'image d'un grand puzzle. La France est un grand puzzle. Et puis, voilà, on a des pièces qu'on essaie
Donc, quelqu'un...
Alors, combien de gens il faut en moyenne?
Alors, ils font en moyenne, au bout de 18 mois, ils font à peu près 50 000 euros de chiffre d'affaires. Alors, ça dépend dans quelle région. On est sur une vente moyenne en France à peu près à 8 000 euros d'honoraires.
50 000 euros, ce n'est pas leur rémunération.
Non, c'est leur chiffre d'affaires.
D'accord.
Et
combien ils gagnent une fois qu'ils ont payé leur charge, parce qu'ils sont soumis, quoi. Ils sont soumis à l'URSSAF.
Généralement, à ce stade-là, ils sont auto-entrepreneurs, donc ils ont un niveau de charge réduit. Donc, vous pouvez déduire à peu près 25% de charge.
Il leur reste 35 000 euros.
Il leur reste à peu près 35 000 euros, exactement. Après, effectivement, dans ce modèle-là, parce que nous, on ne les manage pas, on leur donne les outils de réussite. Et vous avez des gens qui vont faire 30 000, 50 000, ça dépend de leur aspiration professionnelle. Et puis, il y a des gens qui font aisément plus de 100 000 euros.
Quelqu'un qui
fait 30 000, qui monte à 500 000 euros de chiffre d'affaires.
Quelqu'un qui fait 30 000, ça lui fait 10 000 euros de salaire.
Non, mais 30 000, si vous voulez, nous, on a une limite. On considère qu'un professionnel, il faut au minimum 5 ventes dans l'année. C'est le minimum du minimum. En dessous, on ne peut pas dire qu'on est professionnel.
Et 5 ventes à combien?
Pardon?
Avec quel niveau de chiffre d'affaires?
Ça fait 40 000 euros. Ça, c'est vraiment le minimum. Est-ce vraiment le plafond minimum, le seuil minimum.
Non, parce que c'est ce que j'avais vu justement sur votre site, c'est que vous disiez que pour des ventes, après je pense que ça dépend aussi du prix, c'est-à-dire que vous disiez que majoritairement entre 80 000 et 140 000 euros, ça marchait assez bien.
Oui, oui.
Quand on dépassait les 400 000 euros, c'était déjà extrêmement compliqué. Donc je pense que aussi la rémunération des mandataires se fait par rapport au prix des biens qu'ils parviennent à vendre.
Exactement. Puis, il y a une chose aussi qu'il faut constater. Si vous l'avez regardé, vous savez que l'année dernière, il y a eu une étude de la concurrence concernant les métiers de l'immobilier. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, Isabelle. Vous parliez de faire baisser les honoraires des professionnels de l'immobilier. mais c'est une bonne chose. Parce qu'en fait, il faut rendre l'immobilier accessible.
Comment ça,
globalement.
C'est une bonne chose?
Mais très sérieusement, je veux dire, c'est une profession. Moi, j'ai travaillé dans l'immobilier quand j'étais étudiant.
Vous plaidez pour baisser le taux de rémunération?
Ouais. Quand j'étais étudiant, je me souviens très, très bien de ce métier de l'immobilier. J'ai travaillé dans le 20e arrondissement. On était sur des acteurs de l'immobilier qui travaillaient à 10-12% tranquillement et puis qui ne posaient pas de questions sur ce que pensaient les clients. Ça ne peut pas durer des choses comme ça, ça ne pouvait pas durer. Effectivement,
ça n'a pas duré.
Aujourd'hui,
c'est plus le cas.
Les prix ont doublé et le nombre de transactions a doublé, donc le marché a quadruplé.
Oui, mais en même temps, si vous voulez, individuellement pour chaque personne, effectivement, on ne pouvait pas prélever autant pour une prestation de professionnel de l'immobilier. Depuis que sont apparus les réseaux d'indépendants, ok, on peut accepter, on peut dire que c'est difficile. Ceci dit, on gagne des parts de marché, ça veut dire qu'il y a des clients satisfaits.
Très juste.
Et si vous regardez, les honoraires ont baissé de façon significative. Je crois que la moyenne française, c'est 5,78 grosso modo.
Les réseaux d'indépendants,
les réseaux d'indépendants, on est en dessous de 4 en moyenne, si vous voulez. Et pourtant, nous, le réseau vit bien, les conseillers vivent bien et les clients sont satisfaits. C'est une répartition de la richesse qui est plutôt bien foutue actuellement. Quoi,
alors, c'est intéressant parce que ça mérite débat. Christian, vous
l'avez dit. Oui, en fait, je voulais juste une chose, c'est que finalement, entre un mandataire qui travaille de chez lui ou un agent immobilier qui travaille dans une agence, finalement, vous faites le même métier. Donc finalement, et je trouve que c'est très juste ce que vous disiez sur le plateau de Sylvain lors du dernier raid, vous avez dit, il n'y a pas de modèle, mais il n'y a que des clients. Et ça, je trouve ça très juste.
Très juste, absolument.
Eh bien, je suis complètement d'accord avec vous, et c'est ce qui m'intéressait d'ailleurs dans la réflexion sur la société, ces mobilim, là, dont vous avez parlé, Christian. C'est effectivement ça. En fait, finalement, avec cette crise, on se rend compte aussi, nous, on a beaucoup de professionnels qui nous rejoignent. Là depuis le début de l'année, c'est 60% des personnes qui nous rejoignent, qui viennent majoritairement d'agences immobilières, qui ne connaissaient pas ou qui avaient une mauvaise image du modèle de l'indépendant en immobilier, et qui tout d'un coup se rendent compte que finalement, il y a de la formation, il y a de l'accompagnement, ils gagnent mieux leur vie. Voilà, ils s'épanouissent, donc c'est bien. Et effectivement, ce qui est intéressant, le vrai débat, c'est pas de savoir agence, machin, peu importe, c'est comment, dans le futur, dans le futur, futur proche si possible, le client immobilier va rentrer en relation avec le professionnel. Est-ce que c'est dans une agence? Est-ce que c'est sur les sites? Parce qu'on sait qu'effectivement, les sites essayent aussi de prendre ces parts-là. Est-ce que c'est à travers des actions sur les territoires? Nous, on a un partenariat avec une grande société qui nous permet d'être présents sur tous les territoires. Mais mes conseillers font depuis longtemps des animations en centres commerciaux. Et non pas pour avoir une agence immobilière, mais pour faire connaître un service qu'ils peuvent apporter. Et c'est ça, on va au-devant des clients.
Et est-ce que vous accentuez sur la formation? Est-ce qu'ils sont de mieux en mieux formés? Parce que c'est ça aussi la question.
Parce
qu'on peut penser qu'au début, quand ces conseillers indépendants sans vitrine sont arrivés, on peut... Effectivement, ils faisaient...
Je voudrais en prendre le clou sur ce que dit Truc, parce qu'il a absolument raison, c'est que la formation, c'est clé. On parlait des diagnostiqueurs. Nous, on a fait le test. Il faut 2 jours pour être diagnostiqueur et aller faire du DPE. Je suis désolé, on ne peut pas être crédible là-dessus. C'est vrai que fut une époque, assumer l'idée que fut une époque, Michel, on devenait mandataire, tchic-tchac, comme ça, rapidement, avec cette mythologie autour de l'immobilier où c'était facile, où on pouvait se faire du blé facilement, alors que c'est un métier. C'est pas ce que vous faites. Je le dis, non mais voilà.
Oui, non, mais vous avez raison,
vous avez pris les choses à contre-pied. Vous avez dit non, c'est pas une raison, c'est un vrai métier. Et d'ailleurs, vous faites très attention dans le recrutement aux personnes qui viennent chez vous, notamment les populations fragiles. Et puisqu'on se dit tout, on va tous dire, vous n'êtes pas là pour prendre que de l'abonnement. Hein. Ce n'est pas l'idée. Que ce que vous avez reproché à l'époque, feu Laurent Vimon, dans des réunions d'ailleurs que j'avais animées à l'époque, qui était vent debout contre vous, c'est qu'il faisait une comparaison des taux de rémunération qui variaient quasiment du simple au double, hein, sur 80 000 euros de rémunération brute ramenée par un jeune négociateur versus 34 000 euros de moyenne pour les mandataires. Mais surtout, il s'appuyait sur un livre qui a été écrit il y a quelques années qui s'appelle « La précarité en col blanc » par une chercheuse du CNRS. Non, mais je vous le dis, les chiffres ont peut-être changé, mais c'est intéressant, parce que les chiffres, ils sont têtus. Et ils sont têtus à deux niveaux, où cette chercheuse, je ne me rappelle plus son nom, a été venue, on l'avait reçue sur son plateau, on la retrouvera, et on vous donnera, les amis, les informations. Intéressant, qui montrait qu'effectivement, ces statuts d'indépendance, c'est-à-dire cette fragilité de la récurrence de revenus, c'est incertitude, parce que par définition, ils remettent les compteurs à zéro, on ne sait pas combien on va gagner le mois prochain, sauf que dans le modèle, Michel Lebras, ben eux, par contre, ils payent une cotisation mensuelle qui assure une trajectoire de revenus pour la franchise. Donc, la question que je vous pose très franchement, c'est que défend un franchiseur ou un réseau? Est-ce qu'il défend son modèle de franchise ou est-ce qu'il défend l'immobilier?
S'il veut réussir à long terme, il est obligé de défendre l'immobilier. Il n'a pas le choix, de toute manière. Il n'a pas le choix, autrement, ça s'arrêtera. Et justement, non, mais c'est étonnant, c'est intéressant, ce type d'étude, parce que finalement... Si les chercheurs au CNRS apportaient une valeur ajoutée sur l'entrepreneuriat français, ça s'aurait depuis longtemps. C'est très intéressant parce que c'est bien la déconnexion de notre société où finalement, évidemment, vu de haut, d'une sorte d'élitisme, enfin bon, c'est intéressant. Mais la réalité, c'est qu'il y a plein d'entrepreneurs et ces gens-là, ils vivent une vie d'entrepreneur et c'est la vie qu'ils veulent vivre. Et quand parfois, parce que leur femme, parce que quelqu'un leur dit « redeviens salarié », ils ne restent pas longtemps, ils reviennent dans le monde de l'entrepreneuriat. Et donc, finalement, ce n'est pas la précarité. Le sujet, ce n'est pas la précarité, c'est qu'il faut... Il y a des modes de vie, des modes de rémunération, des modes d'entrepreneuriat qui sont adaptés à chacun, sans jugement.
Est-ce que vous comprenez qu'il y a une précarité dans ce métier, dans certains peut-être types de réseaux?
Dans son livre, il ne faisait pas la différence entre mandataire et agent immobilier.
On parlait pas des
précaires.
Hein. Oui, on parlait des travaux précaires. Non, on ne faisait pas la différence entre agent négo ou mandataire. Hein.
À part en France être fonctionnaire, je veux dire, tout entrepreneur vit dans la précarité. Et clairement, on vit dans la précarité. La preuve, vous voyez ce qui se passe actuellement. Tout est remis en cause au niveau fiscal en France. On ne sait pas ce que ça va devenir dans quelques mois. Et on voit bien qu'on est dans une précarité permanente. Et dès qu'on est entrepreneur. Et maintenant, ça va plus loin parce que même les salariés, finalement, il ne faut pas se leurrer. Je veux dire, les ruptures de contrat de travail, ça se fait très facilement. Donc, tout le monde est potentiellement dans la précarité. Après, c'est plutôt le mode de vie. Est-ce qu'attend la personne? Et moi, dans un réseau comme Propriété Privée, ce que je trouve intéressant, c'est que la personne va déterminer elle-même l'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Et ça, c'est très intéressant. On voit des gens s'épanouir vraiment, c'est-à-dire vraiment changer d'univers et puis répartir leurs efforts dans leur vie. Et ça, ça fait plaisir. Quand on voit ça, ça fait plaisir. Les gens
Anthony, vous voulez intervenir?
Non, moi, si je peux me permettre, je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Et je pense que ce qui a perturbé beaucoup de gens à un moment, là, on parle de précarité, mais fut un temps, c'est vrai que quand on a des rémunérations, notamment avec des commissions, c'est-à-dire où forcément on n'est pas sur des salaires fixes, et on sait qu'en France, il y a toujours un tabou autour de l'argent.
Très juste.
Et on savait que, voilà, quand on vendait parfois même des biens qui sont extrêmement chers, parce qu'il y a aussi, il y a aussi une clientèle pour ça, et bah oui, il peut y avoir des émoluments extrêmement importants, des gens qui peuvent gagner peut-être 100 000 euros dans le mois, mais qui ne vont peut-être pas gagner sur les mois suivants, parce que si jamais ils ne font plus ces ventes-là, et bah les 100 000 euros qu'ils auront gagnés seront lissés sur plusieurs mois. Et je pense que c'est ce manque de lisibilité, en fait, qui peut perturber des gens en France, parce qu'il y a toujours ce tabou autour de l'argent, et qu'on avait des sommes astronomiques, des fois, sur des ventes à 400 000 euros. On disait, mais alors l'agent immobilier a dû prendre une commission de dingue. Et ça, je pense que ça pouvait effectivement mettre mal à l'aise certaines personnes.
Mais c'est pour ça que je vous rejoins. Mais toujours... Toujours, et ce qui est intéressant, moi je trouve qu'il y a une chose intéressante dans notre profession, c'est que les gens payent lorsqu'ils sont satisfaits. Ça, je trouve que c'est un point fondamental qui effectivement est un peu dur pour le professionnel parce qu'il va travailler pendant 9 mois, une vente c'est 9 mois. Grosso modo, la vente moyenne, c'est 90 jours entre la prise de mandat et le compromis, 90 à 100 jours et 100 jours entre le compromis et la vente.
Donc le premier euro que va percevoir... Ouais. Pour le fruit de son travail, c'est 9 mois.
C'est 9
donc,
mois, ouais.
Juste une question prosaïque, et merci d'ailleurs d'avoir la franchise de répondre à toutes les questions, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein, je vous le dis. Est-ce que vous veillez à ce que la personne qui vient chez vous a de quoi vivre pendant 9 mois ?
Ah oui, ça fait partie des premières questions. Et effectivement, si la personne ne se rend pas compte, alors notamment c'est les débutants, hein, les personnes qui ne se rendent pas compte, qui imaginaient effectivement, vous avez raison, que l'immobilier c'est un Eldorado, qu'on va gagner sa vie rapidement, on va faire rigoler tout le monde.
Oui, on peut faire un one shot
après les émissions de Super Bowl.
On peut rien faire pendant 4 ans, quoi.
Mais en fait, non, on ne veut pas rigoler tout le monde. Et puis, la personne ne rigole pas toujours non plus. Et donc, parmi des questions, c'est effectivement le BFR. C'est-à-dire, est-ce que vous avez les moyens, au minimum, alors,
BFR,
pendant un an,
pour ceux qui nous écoutent,
besoin d'un fonds de roulement.
Voilà, un fonds de roulement, c'est un peu de trésor pour payer ses charges.
Exactement.
Mois,
pour pouvoir vivre pendant cette période. Bah.
Parce que chez IAD, ils annonçaient un turnover très important, de 50%. Les entrants, j'avais entendu ce chiffre. Ce qui prouve que ce n'est pas facile de rester et qu'il y a effectivement beaucoup de turnover. Et donc, vous, est-ce que vous avez un turnover important ?
Alors, on a un turnover plus bas et en fait, on a bien résisté à la crise. Pourquoi ? Parce que les gens qui nous rejoignent, ils viennent pour faire de l'immobilier à temps plein. Ils ne sont pas là pour faire une vente ou deux par an. Donc finalement, c'est des personnes qui ne lâchent pas parce que c'est leur métier. Et donc, c'est leur métier, donc elles continuent. Même elles savent que, c'est plus dur, mais je vais travailler différemment.
Et le turnover, il est de combien chez Propriété ?
Pardon ? Il est de moins de 20%, 20%.
Ah, c'est pas mal.
Bah oui, en fait, on a un turnover sur les personnes qui sont en reconversion, clairement, professionnelles. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux problèmes dans les personnes qui viennent dans l'immobilier. Le premier, c'est les personnes qui pensent qu'on peut tout faire avec un ordinateur et que ce n'est pas du commercial et qu'il ne faut pas se déplacer. Enfin, qu'en gros... on peut faire de la prospection numérique et les clients vont venir.
C'est exactement le contraire.
Alors que c'est exactement le contraire, c'est un métier de relation.
C'est un
peu syndrome du télétravail.
Merci de le dire, parce qu'on va casser, vous avez raison de le dire. C'est exactement le contraire.
C'est un métier d'échange, c'est un métier de contact, il faut aller vers les gens.
Au contact, au cul des vaches, comme dirait Chirac.
Il faut voir les biens, vraiment.
Il faut être implanté, il faut vivre avec la population locale et être le reflet de ce qu'ils sont dans leur vie. Il faut être dans la vie des gens. C'est fondamental.
Je ne sais pas, peut-être que j'ai mal écouté, mais alors du coup, il y a un BFR.
Oui.
D'accord.
Mais si les gens nous disent, je n'avais pas compris, oui, il faut avoir de l'argent, on ne les prend pas. On ne les prend pas parce qu'on sait que là, on sait qu'on...
Comment vous assurez qu'ils ont je sais pas, ils vous le disent.
On pose la question. Si la personne se ment à elle-même, j'ai envie de dire à ce moment-là, mais ça fait vraiment partie du cycle, alors là, fait partie du premier rendez-vous.
Je vais vous demander justement comment se déroule le process de recrutement.
Le process, en fait, les gens nous contactent. En fait, ils nous contactent soit à travers, généralement à travers le site, à travers,
Ils participent
à ce qu'on appelle une réunion d'information. Une réunion d'information. Donc, au cours d'une réunion d'une heure, on leur présente le métier. Sachez que pour les professionnels, parce qu'on fait des réunions pour les gens en reconversion et pour les professionnels. Pour les professionnels, c'est moi qui les fais. Hier midi, j'en faisais. J'aime bien, c'est sympa en plus.
Ah, vous continuez
bien. C'est un truc que j'aime bien faire. Donc, j'en fais, mais certains salariés en font aussi, mais j'adore faire ça. Et donc, on leur présente le métier. C'est plus facile avec les pros parce qu'ils savent de quoi on parle. Et ensuite, ils ont un rendez-vous avec un chargé de développement et il y a un certain nombre de questions. Notamment, on travaille avec eux sur quel métier ils veulent faire, puisqu'on peut faire du résidentiel, on peut faire du luxe, on peut faire du viager, on peut faire de l'entreprise et commerce. On est le numéro 1 en café, hôtellerie et restauration en France actuellement, chez Propriété Privée.
Je voudrais saluer quelqu'un, vous permettez ? Bouchra Bouziane.
Oui.
Propriétéprivée.com.
Oui.
très active sur Paris-Île-de-France.
Oui, oui, très Paris.
Elle fait un très, très bon travail. Oui. Vraiment un très, très bon travail. Et c'est vrai que c'est incroyable que vous, agent réseau mandataire, c'est-à-dire parce que par rapport à d'autres poids lourds qui étaient dans le terrain, vous ayez pris une telle part de marché sur les commerces, et notamment les CHR.
Oui, les CHR, exactement. On sera présent au CIRA.
Café-hôtel-restaurant.
Café-hôtel-restaurant, on sera présent au CIRA à Lyon. Et donc, au cours de cet entretien, notamment pour les débutants, les personnes qui ne connaissent pas l'immobilier, on leur pose des questions sur leur situation financière. Mmh. Parce qu'autrement, on sait qu'on les emmène dans le mur. Et ils s'emmènent eux-mêmes dans le mur. Mmh. Et l'autre point de l'échec de l'indépendance, c'est vraiment l'indépendance, c'est les personnes qui pensent qu'en étant indépendants, elles n'ont pas besoin de travailler beaucoup. Alors qu'en fait, si, en étant indépendant, on a besoin de travailler beaucoup. Si, c'est les gens qui pensent qu'ils ne vont plus avoir de patron, donc du coup, je vais m'organiser, quoi. Non, il faut vraiment se mettre soi-même la pression. Et ça, c'est le premier taux d'échec.
Bien sûr. Ça coûte combien ?
Ben, ça coûte combien ? En fait, ça coûte...
On paye un abonnement, hein ?
Ah ben, pour la première année, ils ne payent rien. D'accord. Les gens ne payent rien. On leur paye même leur carte professionnelle.
Et ils ne payent pas aussi lorsqu'ils atteignent un certain...
Alors oui, dès qu'ils atteignent 39 000 euros de chiffre d'affaires, donc 5 ventes, ils ne payent plus. Voilà, ils ne payent plus. Mais la première année, ils ne payent rien.
Mais comment vous vivez, vous ?
Et ben, en fait, la première année, c'est un vrai sujet, c'est que c'est un véritable investissement. Donc, on a intérêt à bien sélectionner les personnes qu'on prend parce qu'on va les accompagner, les former, leur mettre en face un coach, puisqu'ils ont un coach attitré.
Ça vous coûte.
Oui, c'est onéreux. Et sur les phases de reconversion, c'est vrai que c'est problématique parce qu'on a des populations qui, effectivement, sont parfois. Et c'est pas facile de se rendre compte du sérieux du projet de la
Pardonnez-moi,
personne.
Mais est-ce que vous avez chiffré l'acquisition, justement, quand quelqu'un.
Non, très sincèrement. Voilà.
Quand vous investissez sur une année où il ne paye pas,
oui, c'est plusieurs milliers d'euros. Une personne, c'est plusieurs milliers d'euros. C'est déjà plusieurs milliers d'euros pour la faire venir et ensuite pour la former dans la première année, puisqu'une formation c'est au minimum 6 mois de formation en fait.
Enfin, alors, si vous continuez ce process, c'est qu'il y a un retour sur investissement derrière.
Oui, mais c'est vrai qu'on est plus sélectif maintenant sur les profils en reconversion parce qu'on a eu beaucoup de personnes qui sont venues en pensant que c'était l'Eldorado et finalement. Oui, ça peut être l'Eldorado, mais comme tout métier, je veux dire, si on travaille, si on s'implique, si on aime ça, mais il faut en avoir conscience dès le départ. Donc on est plus sélectif sur la reconversion.
J'ai deux thématiques, parce qu'il va falloir quand même qu'on rende l'antenne, même si on aimerait tous rester entre nous, c'est bien. J'ai évoqué tout à l'heure le maillage territorial et régional, effectivement, vous avez répondu, et vous êtes allé, parce qu'il faut le dire, c'est vrai, vous êtes allé dans des déserts où il n'y avait pas de professionnels de l'immobilier, vous avez aidé beaucoup de gens dans des centres-bourgs, parce qu'effectivement, les critères de zone de chalandise, c'est-à-dire de volume de personnes, ne sont pas les mêmes quand on est mandataire que quand on est une agence pour pouvoir vivre, etc. Et ça se comprend, hein, et ça se comprend plutôt bien. Je voudrais juste évoquer un chiffre avec vous. Le logement est devenu le premier poste de dépenses des Français. Et ça, c'est finalement assez récent, parce qu'il est passé à 26,7% selon l'INSEE, devant l'alimentation à 17,3% et les transports, enfin, à 14%. Le logement est devenu la première dépense contrainte avant l'alimentaire. On a l'impression que l'évolution dans le cœur des Français, dans l'esprit des Français, est assez démoralisante, devient vraiment l'empêcheur de tourner en rond. Quand on voit les statistiques pour les seniors avec de l'immobilier opéré, par exemple, ou les jeunes actifs qui peinent à se loger, même s'il y a des services dont on a parlé, habitat intergénérationnel, co-living, etc. Et on se rend compte d'ailleurs que ces phénomènes co-living peuvent être très bien, mais ça coûte quand même beaucoup d'argent. Vous en pensez quoi justement sur cette politique du logement ? Est-ce que vous dites finalement on ne devrait pas réfléchir à classer peut-être avec la TVA, avec des appuis, et de dire finalement... tiens, je vais vous poser une question. Est-ce que vous aimez le sucre ?
Le
sucre.
Malheureusement, oui.
D'accord. Est-ce que vous pourriez vous passer de sucre ?
Oui, il faudrait, oui.
D'accord, mais vous pourriez dans l'absolu.
Oui.
Est-ce que vous pourriez vous passer de la maison qui vous abrite tous les jours ?
Non, c'est difficile, oui.
Vous savez la différence entre les deux ? C'est que le sucre est un produit de première nécessité, pas la maison.
Mmh.
Et elle est classée comme telle. Vous savez, la farine, l'huile, etc. Mmh. Et je trouve
la TVA 5,5.
Oui, la TVA 5,5. Mais je trouve ça assez intéressant de se dire, dans ce pays, ça ne serait pas une noble cause, de se dire que je suis patron d'un réseau immobilier et je vais me battre avec les politiques pour leur faire comprendre qu'il faudrait qu'ils classent enfin le logement comme un produit de première nécessité. Ce ne serait pas un bon combat, ça ?
Alors, oui, tout à l'heure, vous parlez de politique du logement. Il faudrait qu'il y ait une politique du logement, déjà, pour pouvoir en parler. Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas, clairement pas. Non, mais c'est vrai, il faut être...
On met
tous
nos espoirs dans Madame l'État.
Non, mais Madame l'État,
Il faut lui donner quand même crédit. C'est la première fois que nous avons une ministre de plein exercice. C'est arrivé depuis très longtemps. Et quand même, qui a gagné quelques arbitrages. Et donc, il faut aussi saluer
son action. Qui connaît le secteur.
Et qui connaît le secteur, très bien.
Néanmoins, je pense qu'il ne faut pas trop attendre de façon générale des politiques.
Non.
De façon générale. Alors, je pense que là, la période actuelle, on le voit bien. Hein, au moins le marché de l'immobilier était bien reparti. Moi, si j'ai une source d'inquiétude, c'est ce qu'on est en train de traverser là depuis un mois, où on voit qu'il y a vraiment un attentisme chez les clients de par la situation.
Ah, vous le sentez ?
Ah bah très clairement, depuis un mois très clairement. Ça baisse. Ça me remonte de partout sur le terrain. Et très clairement, c'est vraiment lié.
La peur du gouvernement, projet de loi de finances, motion de censure qui ferait sauter le gouvernement Barnier. Enfin,
c'est un climat général de crainte, en fait, finalement. L'immobilier, c'est un reflet de la confiance des Français. Là, il n'y a plus de confiance. Là, depuis un mois, nous, ça remonte de façon systématique. Les conseillers sont même inquiets. Et c'est vraiment concomitant à cette période. Alors qu'avant, on était dans une phase d'embellie qui avait vraiment incroyable depuis le printemps et en particulier cet été. Nous, la semaine après la dissolution, on a constaté une hausse des mandats, de la prise de mandat de 54%. C'est-à-dire qu'en fait, les gens sont tout d'un coup venus chez nous, nous sont dit, faut qu'on vende notre bien, c'est pas ce qui va se passer.
Non, mais c'est comme après une émission de Stéphane Plaza, et la moitié de la France va devenir agent immobilier. Non, mais
et là, on constate un ralentissement sur l'intérêt des acquéreurs, parce qu'il y a cette crainte de ce que sera l'avenir à court terme. Quoi.
Oui, je voyais...
Non, je voulais dire, enfin, effectivement, vous avez dit que Valérie Létard avait gagné quelques arbitrages. Bon, on a vu une valse des ministres du logement depuis déjà plusieurs années. Et je me demande surtout si la non-volonté du gouvernement d'agir dans le sens du logement, c'est pas surtout qui dit logement dit ancrage. Est-ce que ce gouvernement-là n'est pas pour plus de nomadisme, plus de flexibilité, notamment au niveau du travail? Le problème, c'est que qui dit logement, qui dit être propriétaire, dit aussi s'ancrer sur un territoire. Et on n'a pas l'impression que dans la philosophie de ce président de la République, ou en tout cas des gouvernements qui s'en sont suivis depuis qu'il a été élu, on soit forcément dans une stratégie de l'ancrage, mais plus du nomadisme en fonction des flux du travail, des capitaux, et ainsi de suite.
Mais c'est une vraie question que vous posez, et mais les chiffres sont têtus, parce que les chiffres, c'est 4,5 millions de foyers sont en attente de logement et vivent dans un logement, alors je ne vais pas dire indécent, mais un logement qui est quand même, en termes de qualité, délicat. 2,7 millions de foyers en attente de logements sociaux. 330 000 SDF constatés. C'est juste absolument incroyable. Également, vous l'avez vu, parce que vous l'avez vu dans la presse et à la télévision, il y a 2,000 enfants de moins de 5 ans qui dorment dehors tous les soirs. Faute de capacité de logement d'urgence. Le logement, c'est le lieu de l'intime, c'est le lieu de l'abri. Et d'ailleurs, ce gouvernement, avec Valérie Létard, avait célébré la journée du sans-abrisme en faisant une grosse opération. Il faut quand même rendre justice à la France, qui a quand même résolu le problème de plus de 600 000 personnes qui étaient sans-abri dans les 10 dernières années. Maintenant, effectivement, les chiffres sont proportionnellement absolument incroyables. Est-ce que, Isabelle, on n'est pas juste face à un État où il faut constater qu'il sera... de toute façon incapable de résoudre la situation, même s'il a la volonté politique?
Bah, de toute façon, c'est difficile à résoudre. Mais moi, qui ai suivi la politique du logement depuis 40 ans, en général, la gauche, c'est le logement social. La droite, c'est la propriété privée. C'est l'accession à la propriété. Et Macron, c'est ni l'un ni l'autre. Parce que je pense que dans son esprit, et j'ai vu ça aux Pays-Bas, dans son esprit, le marché immobilier doit s'autoporter, doit s'autofinancer et il ne doit pas y avoir d'intervention publique. Or, on l'a vu, je me rappelle très bien, août 2016, Manuel Valls dit il faut relancer la construction. Il lance le Pinel, il lance le prêt au zéro. Et ça a marché. Ça ne marche pas tout de suite. Mais donc, on s'aperçoit que le marché du logement a besoin d'un soutien de l'État. Et soutien d'ailleurs, et tout le monde l'a dit, c'est que certes, on dépense 42-45 milliards d'euros en aides de toutes sortes, 16 milliards sur l'aide au logement, mais ça rapporte 90 milliards. Donc le fait de dire on n'intervient pas, on laisse faire le marché, c'est mortifère. Et je pense que c'est ça qui a animé la non-intervention des différents gouvernements Macron.
Il va malheureusement être l'heure de se quitter.
C'est pas le nomadisme.
C'est une très très belle.
C'est lui dire.
C'est une très très belle émission.
Démerdons-y.
Un grand merci à vous, Michel Lebras. Je rappelle que vous êtes le président de propriétéprivée.com. Vous retrouverez également, les amis, l'adresse du site internet de propriétéprivée.com si vous voulez devenir professionnel de l'immobilier, on va dire les choses comme ça, vous pouvez le faire, merci encore une fois, avec beaucoup de franchise de vous être livré, sans langue de bois, de avoir répondu exactement à nous tous, nos journalistes. Merci Isabelle Relefebvre.
Merci beaucoup.
Vous revenez nous voir en décembre, c'est le 13e jeudi du mois, on fera la fête, on va venir avec le gros sapin de Noël pour essayer d'apporter des bonnes nouvelles. Le grand jury de la presse immobilière, c'est pour vous les amis, et vous donner un éclairage de toute la presse, même la presse généraliste qui vient, puisque nous avons le point Challenge qui viennent régulièrement nous voir. Un grand merci également à Anthony Donnet, voilà, journaliste chez ImoWeek, dont vous avez l'adresse également sur le podcast. Ça vous a plu, Anthony ?
Très bien.
Est-ce que
très
vous reviendrez bien. Le mois prochain ?
Mais avec grand plaisir, si vous m'invitez, bien
et
sûr.
Eh bien, écoutez, moi, je propose qu'en régie, vous avez récupéré les rondes serviettes, vous gravez Anthony Donnet. Il a d'ores et déjà gagné très largement et avec beaucoup de succès sa place dans le grand jury de la presse immobilière. Merci, Anthony.
Merci.
C'est un plaisir de vous voir. Et merci également d'avoir préparé très bien vos interventions, parce que vous aviez noté toutes les interventions qu'avait faites notre ami Michel Lebras durant les dernières années. Voilà, quand on est pro, hein. On va dire les choses comme ça. Voilà, merci beaucoup. Un immense merci à notre monsieur Data. Voilà, ça fait penser à Star Trek Entreprise, vous savez, Data.
Il n'y a pas les oreilles de Spock.
Appelez-moi Jean-Luc Picard, voilà, Star Trek Entreprise, Monsieur Data, Régis Sébi, voilà, toujours aussi brillant, voilà.
Oui, j'essaye.
Voilà. Vous revenez le mois prochain. Hein.
Alors le mois prochain, je reviens si vous mettez votre plus beau pull de Noël.
chiche.
Non mais c'est pas gentil.
Ah ben si.
Non, mais c'est pas gentil parce que vous savez que je vais le faire.
Il faudrait être sorti avec
Isabelle. Non mais vous savez que je vais le faire parce que voilà, voilà.
Moi, j'en ai pas.
D'accord.
Bon, vous offrir.
Je mets pas les cornes. Je mets pas les cornes de reine, hein, quand même. Bon. Eh ben Paris tenu, tiens.
Voilà. Ah, bon, on va essayer.
Allez,
Paris. Dites-moi le mois prochain.
Ok, Paris tenu. Et vous venez de quelle couleur, vous alors? Attendez, il y a pas de raison. Je viens avec un pull de Noël. Si vous venez avec un chapeau de Père Noël.
Ça, j'en ai. Mais je vais en trouver un jaune.
Non. Vous mettez un chapeau de Père Noël rouge et je m'engage à avoir un pull de Noël. Ça va ?
Vous savez, le rouge, j'ai pas le droit de le porter. Donc,
deal ou pas ?
On va essayer de le faire jaune.
Bon, d'accord, jaune. Ah, bien. Bah oui.
Eh oui.
Eh oui. Oui, bah oui. Mais bien sûr. Mais bien sûr, suis-je bête. Voilà. Merci en tout cas d'être passé à notre Christian Capitaine, voilà, le rédacteur en chef de Immo Matin. Merci d'être venu sur le plateau. Vous revenez, on aimerait bien vous voir.
Oui,
on vous prépare. Alors, on l'habille comment, Christian? Voilà. Non, on va pas le piéger. Bon, on va essayer de faire en sorte de faire. Je vous propose pour la fin de l'année, hein, les amis, qu'on fasse une émission un peu légère, voilà, pour donner du baume aux Français avant la trêve des confiseurs.
Ça fait du bien.
Voilà. Et à notre super journaliste nouvellement arrivé dans la team Radio Immo, qui fait des étincelles, mais également journaliste réputé de Job Radio, la Rue de l'Ariège, radio d'ailleurs qui est maintenant localisée ici, dans le studio.
Oui, exactement.
Voilà, nous annonçons officiellement, voilà, nous n'avons pas acquis, ils sont toujours aussi indépendants, mais ici c'est un kibbutz radiophonique. Donc ceux qui ont des radios, ils peuvent venir s'installer chez nous. Voilà, vous êtes les bienvenus. En tout cas, on est très heureux de vous avoir reçu. Merci.
C'est très gentil.
Merci Jean-Baptiste.
Juste une petite précision, parce que j'ai été voir du coup La précarité en col blanc, c'est Lise Bernard. Donc si les gens veulent aller voir.
Bernard.
Voilà. C'est Lise Bernard. L'agenda du mois, les amis, on se retrouve au congrès FNIM du 9 au 10 au Carousel du Louvre, également du 10 au 12 au Porte de Versailles. Bon, pardon, Porte d'Aute. Non, je vais y arriver. Porte Maillot.
Porte Maillot.
Voilà.
Oui.
Le simi, c'est le maillot. Voilà. Oh, pas merci, Christian. Heureusement qu'on a des potes ici. Voilà. Du 10 au 12, on sera donc porte maillot au simi, qui est le salon de fin d'année très important. Une très, très grosse rentrée qui est bien évidemment pour conclure cette année avec voilà, un marché très contrasté. On peut le dire les choses comme ça. Et bien évidemment, le congrès FNIM, c'est the place to be. On s'y retrouvera tous du 9 au 10 avec notre cher président Loïc Quentin. Et bien évidemment, Radio Immo, partenaire historique de la FNIM, il sera présent et vous êtes bien sûr tous et toutes cordialement invités. Prenez soin de vous. On se retrouve pour un prochain rendez-vous du grand rendez-vous du grand jury de la... Je ne vais pas y arriver cette fois-ci. Grand jury de la presse immobilière. Et le podcast, comme d'habitude, est à télécharger. Et vous avez toutes les informations sur le podcast en question. Merci.
Le grand jury de la presse immobilière. Une émission en partenariat avec Bien Ici. À réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.